Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. En 1989, il y a de ça 30 ans exactement, le mur de Berlin s'effondrait et le dissident Václav Havel était élu président de la Tchécoslovaquie à Prague. Havel était un homme politique complètement atypique. C'était un amateur de musique rock, un homme de théâtre admiré par Milan Kundera et par Samuel Beckett qui lui avait dédicacé un texte pour le soutenir après son arrestation par les communistes. C'était aussi un opposant humaniste et l'auteur d'un petit livre philosophique et politique intitulé « Le pouvoir des sans-pouvoirs » qui fut le bréviaire de la désobéissance civile dans les pays de l'Est et qui circula sous le manteau jusqu'à Moscou. Bref, l'arrivée à la présidence de Prague de celui que l'on surnommait le président philosophe symbolisait les temps nouveaux qui s'ouvraient en Europe. L'année suivante, Havel fit venir les Rolling Stones à Prague. C'était la première fois que le public tchèque avait un accès direct, non clandestin, à la musique des Stones et plus généralement au rock. Et ce concert devenu légendaire reste comme l'illustration d'un moment européen porteur de tous les espoirs. L'Occident kidnappé par la guerre froide, pour reprendre la formule de Milan Kundera, était maintenant libéré. Il allait renouer avec sa grande tradition des Lumières, accoucher d'une génération de dirigeants nourris à la dissidence et à la littérature, proposer au monde un nouveau modèle de démocratie et de liberté qui s'exporterait partout et dont Mick Jagger et Goethe, Simone Veil et Nina Hagen seraient les figures tutélaires. 30 ans plus tard, en Angleterre, Theresa May vient de démissionner pour n'avoir pas su mener à bien le Brexit. On vote ce dimanche sur un continent ravagé par les populismes et l'élection est surveillée par Poutine autant que par Donald Trump. Le moment européen est-il mort? Est-il encore à venir? Que s'est-il passé? Avec pour en parler aujourd'hui Olivier Guez, bonjour.
Bonjour Marc.
Vous êtes écrivain et journaliste, auteur notamment de La disparition de Joseph Mengele, publié chez Grasset, prix Renaudot en 2017. Thomas Serrier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université de Lille, chercheur en résidence à l'Institut d'études avancées de Nantes, co-directeur avec Étienne Thomas de Europa, notre histoire, l'héritage européen depuis Homère, une somme de plus de 1300 pages signée par plus de 50 collaborateurs publiée aux Arènes. Je crois que c'était en 2017. Et c'est un livre que tous ceux qui s'intéressent à l'Europe devraient avoir chez eux, hein, devraient lire parce que vous y abordez le continent vraiment sous tous ses aspects, depuis l'histoire, la géographie, la philosophie, les échanges commerciaux, enfin tout y est. La version poche est en train de sortir en ce moment chez Champ Flammarion. Et Benjamin Haddad, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en relations internationales. Vous avez été l'un des rares Français à travailler depuis 4 ans pour des think tanks américains à Washington. Vous avez été nommé directeur Europe du think tank Atlantic Council à Washington. Et vous êtes l'auteur de, chez Grasset aussi, de Paradis perdu, l'Amérique de Trump et la fin des illusions européennes qui sort en ce moment. Je vais commencer par vous d'ailleurs, parce que la première phrase de votre livre, pratiquement, c'est vous posez la question, l'année 2016 fut-elle le 1989 de notre génération? Derrière les particularismes nationaux se dessine un mouvement global à l'apparence incontrôlable qui s'étend jusqu'en Chine. C'est-à-dire l'année 2016, le 89 inversé, c'est ça?
Oui, peut-être que l'illusion en tout cas d'un 89 inversé, c'est 1989, rappelez-vous, ouvre une décennie d'optimisme libéral, l'expansion de l'OTAN, l'élargissement de l'Union européenne, les retrouvailles entre les Européens de l'Ouest et cet Occident capturé dont vous parliez dans votre introduction. Tout ça a été montré avec le succès du fameux livre du politologue américain Francis Fukuyama, La fin de l'histoire.
Oui, on va y revenir.
On arrivait à la fin des grands conflits idéologiques, la démocratie libérale l'avait emporté, et finalement on allait rentrer dans des débats essentiellement techniques, technocratiques, entre gestionnaires sociodémocrates de centre-droit et de centre-gauche. Et c'est vrai qu'on voit un retour de bâton brutal en 2016 avec l'élection coup sur coup, le vote du Brexit, symbolisé par ce slogan « Take back control », c'est-à-dire l'envie de mettre fin à ce qui a été vu finalement comme une forme d'impuissance du politique face à la mondialisation, un désir de protection à la fois sur le plan économique, culturel, le retour du thème de la frontière, de l'identité qu'on voit vraiment partout, au-delà même de l'Occident, et bien évidemment l'élection de Donald Donald Trump. C'est à la fois un phénomène global, mais c'est bien sûr un phénomène très important pour les Européens qui ont bâti leur identité, en tout cas l'identité de l'Union européenne, sur la volonté de transcender ces rapports conflictuels d'identité, de transcender les rapports de force, les rapports de violence qui avaient ravagé le continent européen dans la première moitié du XXe siècle. On a finalement délégué d'une certaine façon le traitement du tragique au protecteur américain. Et on est depuis 2016, d'ailleurs dans mon livre, j'explique qu'en fait on en voyait déjà les traces avant, et notamment dans la présidence de Barack Obama, l'Europe doit faire face à sa solitude au moment où elle affronte justement des crises et des ennemis extérieurs. Donc c'est pour ça que, selon moi, 2016 est non pas forcément un tournant, mais en tout cas symbolise ce nouveau moment que nous sommes en train de vivre. Mmh,
mmh. Olivier Guez, est-ce que le moment européen est passé par rapport à 89, 90
Je ne sais pas, je ne veux pas être trop pessimiste. Il est clair que l'Europe aujourd'hui connaît une situation très difficile. Déjà, je pense qu'il faut dissocier l'Europe et l'Union européenne. C'est pas exactement la même chose. Et on a trop tendance à parler de l'Europe pour l'Union européenne. Mais ça, on reviendra probablement là-dessus. Il est clair que l'Union européenne n'a pas avancé depuis la fin du XXe siècle. Mmh. Ça fait à peu près 20 ans. Il n'y a plus de grands projets depuis l'euro. Et tout autour de l'Europe, les choses ont avancé. Les choses ont changé. Et l'Europe se retrouve depuis une vingtaine d'années finalement au milieu du gué. C'est-à-dire qu'il y a eu des solidarités très fortes, notamment économiques, financières, qui ont été créées. Donc des pans entiers de souveraineté ont été transformés à l'Union européenne. Mais pas suffisamment pour que cette Union européenne soit vraiment fonctionnelle en temps de crise. Et donc, on se retrouve dans cette situation tout à fait incongrue, improbable, et l'exemple anglais est très éclairant, puisque les Anglais veulent partir depuis 3 ans, mais les Anglais n'arrivent pas à partir depuis 3 ans. Parce qu'il y a tellement de mécanismes en commun qu'ils n'arrivent pas à partir. Et donc, on est complètement coincé, parce qu'on n'arrive pas à avancer. Les Européens, fondamentalement, ne veulent pas plus de cette Europe-là, en tout cas. Et de l'autre, on ne peut pas revenir en arrière, puisque tous les partis d'extrême droite ou certains d'extrême gauche qui militaient pour une sortie de l'Europe, aujourd'hui ne veulent plus sortir de l'Europe. Donc, on est coincé, finalement, dans une Europe qui a gardé son enveloppe et qui est de plus en plus peuplée de populistes, nationalistes, appelons-les comme on veut.
Je parlais de Václav Havel en commençant. Thomas Serrier, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est devenu l'héritage des dissidents qui servaient de phare à l'idéal européen, en tout cas dans les années 70-80?
Vous avez eu la gentillesse tout à l'heure d'évoquer le livre que j'ai co-dirigé avec Étienne François, oui. Europa, notre histoire. Et dans les 150 contributions, l'une des plus mélancoliques est sans aucun doute celle qui porte le titre 1989. Et qui est signé par un écrivain, un essayiste hongrois, Gyorgy Dalos. Mmh. Il s'appelle 1989, la fin des illusions. C'est un article très très mélancolique, et ce qui est assez frappant, pour répondre très directement à votre question, pour voir un petit peu ce qui s'est passé après 89, c'est qu'il y a eu un malentendu, et que les acteurs du moment 89 n'ont pas été, disons, les principaux bénéficiaires de la période de transition, de ce qu'on a appelé justement la transition démocratique. Oui. Le cas le plus criant et le plus voyant, finalement, c'est la disparition de la génération des dissidents et des opposants, oui, anticommunistes est-allemands. Les premières élections libres de mars 1990 essuient un échec total aux élections. Mm-hmm. Et finalement, c'est Kohl, le CDU de l'époque, et donc les partis, les structures ouest-allemandes qui recueillent les fruits de cette volonté de transformation à l'Est, et dans les pays de ce qu'on va appeler l'Europe centrale, de ce qu'on appelait l'Europe de l'Est à l'époque, parce que le modèle occidental, et là quand même il y a un consensus Est-Ouest, il faut pas simplement jeter la pierre à Kohl et aux dirigeants de l'Ouest, il y a évidemment un consensus aussi à l'Est, de la part des sociétés civiles, pour dire que c'est ce modèle-là qui est désiré. Oui. Et donc, on jette par-dessus bord, effectivement, les véritables acteurs qui, à l'époque, cherchaient souvent une troisième voie qui a été très rapidement oubliée.
Parmi les acteurs, il y avait les écrivains, enfin tous les dissidents, tous ceux qui avaient fait des best-sellers sous le manteau pendant les années de dissidence. Les ventes de leurs livres se sont paradoxalement effondrées une fois la guerre froide achevée, mais de manière spectaculaire. Ils ont littéralement disparu.
Complètement.
Vous citiez Václav Havel, on pourrait ajouter peut-être à côté des écrivains, les intellectuels et les historiens, oui. Et moi une figure tragique que j'aime, pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie. Je l'ai croisé une fois dans ma vie et c'était un personnage assez lumineux, je dois dire. C'est Bronisław Geremek, qui s'était présenté comme président à l'Assemblée européenne, au Parlement européen, et qui n'avait pas été élu. C'était tout un symbole, d'ailleurs, à la fin des années 90, au début des années 2000. Grand écrivain, grand historien, conseiller de Lech Wałęsa dans les années 80, et voilà, qui a une dernière décennie, si vous voulez, d'activité politique très normalisée, tout à fait intéressante, effectivement, qui n'a pas été en tout cas reçue et reconnue, peut-être avec l'importance qu'on aurait dû lui reconnaître.
Olivier Guez.
Je pense que Václav Havel, Guéremec ou quelques autres écrivains intellectuels étaient en fait les arbres qui cachaient la forêt. Je pense que l'image la plus forte, l'une des plus fortes de la chute du mur, bon, il y a évidemment ces images bouleversantes de la nuit du 9 novembre 89, mais c'est le lendemain, le 10 novembre, qui va nous indiquer ce qui va se passer par la suite. Que font les Allemands de l'Est une fois que le mur s'ouvre? Ils foncent à Berlin-Ouest, acheter des bananes, des magnétoscopes, c'est-à-dire tout ce qu'ils n'ont pas pu consommer, en fait, pendant 40 ans. Et c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que nous, on a quelque part, on a une image romantique de la chute du mur, des événements de 89. Il y a des personnages extraordinaires comme Havel, toute cette génération d'intellectuels incroyablement courageux qui se retrouvaient dans les montagnes entre la Tchécoslovaquie et la Pologne. Mais ces gens-là représentent peut-être 1-2% des populations à l'époque. Et je pense que l'un des hiatus de l'après 89, c'est qu'à ces retrouvailles européennes se superpose la mondialisation, qui va commencer à s'accélérer dans les années 90. Et cette mondialisation, qui guide aussi le processus d'élargissement de l'Union européenne, va totalement perturber l'agenda qu'avaient en tête justement ces dissidents, qui sont quelque part encore des figures de gauche d'une certaine manière, d'une gauche humaniste, libérale ou libertaire. Mais ces gens-là, en fait, n'ont plus rien à voir avec la mondialisation qui s'installe dans les années 90.
Et Václav Havel lui-même finira par soutenir George Bush, fils.
Absolument. Ce qui va encore creuser le fossé entre l'Est et l'Ouest. Un dernier point, je pense, qui est très important, c'est que les sociétés d'Europe de l'Est n'ont jamais compris pourquoi les sociétés d'Europe occidentale n'ont pas reconnu les crimes du communisme de la même façon qu'on avait reconnu les crimes du fascisme en Europe. Mmh. C'est-à-dire les souffrances endurées, les Polonais, les Roumains, les Hongrois, les Tchèques, etc. C'est-à-dire toute cette bande entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Union soviétique, ces peuples ont incroyablement souffert. Et d'une certaine manière, il n'y a jamais eu de reconnaissance de la part de l'Ouest. Et je pense que ça a joué énormément dans le destin de l'Europe ces 30 dernières années.
Benjamin Haddad, vous rappelez dans votre livre, par exemple, le destin de Viktor Orban, oui. qui est une des grandes figures de l'illibéralisme en Europe et qui a commencé à 26 ans comme un jeune dirigeant libéral, pratiquement anticlérical, très orienté du côté de l'Occident.
Oui, absolument. Je crois que le parcours d'Orban est vraiment symbolique de cette désillusion et de ce malentendu. Il est jeune militant libéral, effectivement, l'un des premiers à exiger le retrait des Russes lors d'une commémoration du soulèvement de 1956. Lorsqu'il crée le mouvement Fidesz, qui est toujours le parti politique dont il est le dirigeant à l'époque, c'est un parti de jeunes libéraux débraillés, chemise ouverte, barbus, qui est interdit aux plus de 35 ans. Alors évidemment, après, ils ont été obligés, comme ils ont tous vieilli, ils ont été obligés de mettre fin à ce plafond. Anticléricaux et qui progressivement, alors à la fois à cause de l'évolution de la société et des désillusions aussi de ces sociétés vis-à-vis de l'Union européenne et de la mondialisation, et peut-être à cause de l'ambition personnelle de Viktor Orban lui-même, on le voit aujourd'hui, qui au contraire incarne ce retour autoritaire, cette incarnation des valeurs morales conservatrices, la volonté de créer une sorte de pont entre l'Union européenne et Moscou, et donc aussi une fascination des hommes forts, l'érosion des contre-pouvoirs. Donc il en est là l'exemple le plus caricatural. Et c'est vrai que quand on connaît l'histoire de ces pays, quand on connaît leur rapport captif à l'Union soviétique et au crime du communisme, il faut comprendre que l'entrée dans l'Union européenne et dans l'OTAN, parce que les deux sont quand même vraiment liés hein, pour cette région, elle ne s'est pas faite pour abandonner ou transcender l'identité nationale ou la souveraineté, mais au contraire pour la recouvrer et la protéger. Mmh. Et c'est absolument fondamental. Et c'est en cela qu'on voit la crispation, notamment sur la question migratoire, qu'on a pu observer ces dernières années.
On va y venir, mais d'abord sur cette période qui est le début de la globalisation après 89. Vous parliez de Fukuyama tout à l'heure. Il y a cette période d'optimisme, elle est résumée dans une phrase, dans une question que pose Fukuyama, que vous citez dans votre livre, Benjamin Haddad. Pourquoi la Russie voudrait-elle revenir à un impérialisme territorial du 19e siècle alors qu'elle peut profiter de l'ordre libéral?
C'est la théorie du doux commerce.
Oui, la rationalité économique. Et je pense qu'aucune puissance ou aucun projet politique ne s'est autant construit sur cet espoir que l'Union européenne.
Voilà.
Je pense qu'un exemple très frappant, c'est la question de la crise ukrainienne, si vous parliez de la Russie, justement. Cette crise ukrainienne, on oublie un peu ses origines, ou en tout cas ses origines récentes, en 2014. Contrairement à ce que raconte la propagande russe, elle n'avait rien à voir avec un projet d'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine, ni même d'ailleurs d'une adhésion potentielle de l'Ukraine à l'Union européenne. Ça commence avec un traité de libre-échange. Mais cet accord, il a une valeur très différentes selon les interlocuteurs. Pour les Ukrainiens, c'est une façon d'ancrer leur pays à l'Occident, à l'Ouest, de lutter contre la corruption de leurs dirigeants, de promouvoir la démocratie libérale. Pour les Russes, c'est donc une menace stratégique de voir un pays voisin se rapprocher de l'Union européenne et pourquoi pas d'ailleurs de faire émerger un modèle alternatif à ses frontières. Les Européens ratent complètement ce moment. Les Européens envoient des gens de la Commission qui sont compétents, qui sont bien intentionnés, des économistes, mais qui eux sont dans une logique win-win, ne voient pas du tout ça comme un jeu à somme nulle ou une compétition géopolitique avec Moscou, ratent complètement la dimension stratégique. Et c'est pour ça, je rappelle, j'étais en Ukraine à ce moment-là, les Européens étaient totalement pris de court par le soulèvement de la population ukrainienne qui a commencé avec cet accord, parce qu'il n'y avait plus justement aucune capacité politique à nous penser en puissance et à penser notre environnement comme tel.
Thomas Serrier, pourquoi, à votre avis, pourquoi est-ce que l'Europe avait particulièrement besoin de cette construction, de cette globalisation ?
Olivier Guez tout à l'heure a rappelé la manière dont les Allemands de l'Est et les Berlinois de l'Est se sont rués sur les supermarchés de Berlin-Ouest. Par les contacts que l'on peut avoir, on est évidemment tout à fait au courant du niveau de vie et des 30 glorieuses ou du miracle économique, peu importe les termes qui sont différents d'un pays à l'autre, mais à l'Est, on est évidemment tout à fait au courant de cet essor économique et du niveau de vie et du standard de vie à l'Ouest. Ça se traduit tout de suite dans les urnes, lorsque ce que je disais tout à l'heure, les partis et les mouvements qui ont véritablement contribué finalement à faire tomber le mur n'ont pas du tout été les bénéficiaires politiques électoraux. En 90.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un désir d'échapper au passé européen, tout simplement?
Mais la communauté plus l'Union européenne sont des empires du commerce et du droit. Ils se sont construits comme ça. Donc évidemment, cette mondialisation qui arrive, pour cette Union européenne en construction, c'est du pain béni puisqu'elle s'est construite de cette façon. Donc elle va s'inscrire là-dedans. Ensuite, bien évidemment, il y a une volonté d'échapper à l'histoire. Les Européens sortent essorés du XXe siècle. C'est au début du XXe siècle, l'Europe domine des pieds aux épaules le monde entier, et un siècle plus tard, même pas, 80 ans, 90 ans plus tard, l'Europe a été divisée, l'Europe s'est littéralement suicidée en l'espace de 30 ans. Donc l'aspiration des Européens, c'est évidemment de sortir de l'histoire. Le texte de Fukuyama, mais c'est l'évangile de l'Union Européenne au début des années 90. Sauf qu'à la même époque, il y a un autre chercheur américain qui s'appelle Samuel Huntington, exactement, je crois, la même année. Je crois que c'est 92, qui publie dans Foreign Affairs, sur la guerre des civilisations. Et donc, l'Union européenne, en tout cas les Européens, les dirigeants européens, se sont attachés au texte de Fukuyama, puisque ça correspond exactement à la façon dont l'Union européenne s'est construite, tandis que beaucoup d'autres civilisations vont plutôt piocher chez Huntington. Mais globalement, bien évidemment, que les Européens, l'idée de l'Europe dans ces années 90, c'est de devenir une grosse Suisse. Oui. On collabore, on fait du commerce, on établit vraiment un empire de la norme, de la directive. flux des personnes, flux financiers, flux des marchandises. C'est comme ça qu'est l'Europe. Il suffit de se balader aujourd'hui encore dans l'ouest de l'Allemagne, en Belgique ou en Hollande, et on voit ce qu'était le projet européen. Ce sont des camions, des trains, des voitures. C'est ça l'Europe. C'est comme ça qu'elle a été construite dans cette région, c'est de l'ancienne Europe carolingienne. Ce sont des flux, des hommes, des marchandises. Sauf que, ce que j'ai dit au début de l'émission, l'histoire va bouger. Et l'Europe n'était pas prête. Je pense qu'il y a un autre point très très important, c'est que dans les années 90, donc, ces normes se construisent, le droit européen s'enrichit, etc. Mais toute la question culturelle est laissée en plan. C'est-à-dire que ce qui aurait pu permettre justement de bâtir des ponts entre cette Europe de l'Ouest, qui globalement quand même méprise cette Europe de l'Est, et cette Europe de l'Est qui a beaucoup de complexes vis-à-vis de l'Europe de l'Ouest et qui veut la rattraper, sans perdre sa souveraineté, son identité, il aurait fallu bâtir quelque chose de culturel. Et ça, ça a été totalement passé sous silence. Et lorsque les crises commencent dans les années 2000, eh bien cet ensemble va commencer à s'effriter puisque rien ne le relie au fond.
Fukuyama écrit, Benjamin Dodd dans son livre, il écrit aussi « La fin de l'histoire va être ennuyeuse. Le dernier homme consommateur dans le musée de l'histoire sera nostalgique d'une époque exigeant sacrifice et courage pour défendre ses idéaux et son honneur. » C'est-à-dire qu'il annonce Huntington, d'une certaine façon. Il annonce un certain nombre de choses, Fukuyama, néanmoins.
Oui, alors c'est vrai que la conclusion de son essai, qu'on oublie souvent, est beaucoup plus prudente, en fait, que le reste. Et ce qui lui permet, d'ailleurs, aujourd'hui, de dire « Vous voyez, finalement, j'avais pas si tort que ça, puisque j'avais dit... qu'il y aurait un retour à un désir d'identité, d'héroïsme, de conflit. C'est très intéressant de mentionner Huntington, qui a beaucoup plus souvent été cité, critiqué que lu. Alors c'est vrai que la thèse souffre de raccourcis, notamment des grands ensembles géographiques et culturels, parfois un peu douteux. Mais surtout, ce qu'on n'a pas compris sur Huntington, c'est qu'il ne promeut pas un clash des civilisations ou un conflit. À l'inverse, au contraire, c'est un réaliste, c'est un prudent, c'est un Kissingerien qui est un relativiste sur les valeurs, et c'est un livre anti-universaliste qui dit, attention, il s'adresse aux dirigeants américains de l'après-guerre froide, il dit, attention, n'essayez pas d'imposer vos valeurs et vos normes au reste du monde, parce que ça va amener forcément à une forme de tension et de clash. Et on peut voir en germe hein, l'échec de l'intervention américaine en Irak de 2003. On entend parfois ici des gens dire que Huntington est un néo-conservateur. C'est exactement l'inverse. Huntington, c'est un anti-universaliste.
C'est un néo-réaliste.
Or, une fois de plus, l'Union européenne s'est bâtie sur ce projet universaliste. Puisque c'est un projet qui est bâti sur des normes juridiques et économiques, tant que nos voisins et nos partenaires peuvent intégrer ces normes, qu'est-ce qui les empêcherait au fond de faire partie de notre ensemble et de l'Union européenne? Et c'est là qu'on voit les tensions, notamment sur la question de la Turquie, qui nous force depuis 20 ans à se poser la question de nos propres frontières, de notre identité, de notre culture, de qu'est-ce qui fait un Européen. Si on n'est pas capable, comme le disait Olivier Guez, de réfléchir à ce qui fait notre identité et notre culture, effectivement, on reste seulement sur une dimension normative. Alors, c'est beaucoup plus simple quand Erdogan revient sur les acquis et le progrès qu'avait fait la Turquie il y a une quinzaine d'années avec cette dérive autoritaire. Mais en fait, ça règle pas vraiment la question. Ça ne fait que suspendre le processus. Mais il y avait une dimension beaucoup plus culturelle derrière dans ce débat.
Oui, c'est-à-dire que cette idée d'ennui et de consommation... Je me souviens que j'étais, pour citer une anecdote, en Israël au moment de la fin du processus de paix, au moment où ça a explosé. Et j'avais rencontré Aaron Appelfeld qui m'avait dit « Mais les Palestiniens ne veulent pas de notre modèle de développement en réalité.
Ils ne veulent pas. Bien sûr, le
processus d'Oslo était une communauté économique à l'européenne. C'était la version moyen-orientale de l'Europe. Et Appelfeld m'avait dit, mais ils ne veulent pas en fait de ce modèle de développement. Et les Palestiniens ne sont pas les seuls. C'est-à-dire qu'en Europe même, cette décennie a provoqué, y compris à l'Ouest, beaucoup de ressentiments, beaucoup de... Je voudrais vous demander votre avis à tous les trois sur un texte de Philippe Meret, dont je vais lire un petit extrait, qui parle de cette décennie. C'était un des grands pourfendeurs de cette décennie. Le texte date de 89 et il écrit... rien n'a eu lieu de ce qui avait été annoncé. Les Tartares ne sont pas venus, les barbares ont fait faux bond, Godot s'est abstenu, les avions ne sont pas tombés. Phrase incroyable. Qu'allons-nous devenir sans panne générale, sans émeute, sans voyous brûleurs de voitures, sans fanatiques se suicidant en masse, sans ordinateurs déglingués, sans bogue, dans la grande torpeur d'après l'histoire? Il écrit ce passage quand il pense qu'on est effectivement dans la préhistoire, c'est-à-dire 2 ans avant les avions qui vont effectivement tomber.
Effectivement,
Olivier Guez.
J'ai le souvenir des années 90. En 1997-96, moi j'ai étudié au Collège d'Europe à Bruges, qui est une espèce d'ENA européenne. En tout cas, on forme les cadres de la Commission, du Parlement européen, etc. Et c'est vrai que c'était absolument lénifiant, en fait. On ne parlait que de normes. Ça fonctionnait comme un gigantesque site de l'Union européenne. Mais il y avait très peu de chair. Mmh. Il y avait très peu de chair, très peu de contestation, c'est-à-dire ce que la Commission disait avait valeur d'évangile, idem pour les arrêts de la Cour de justice qui étaient les organes supranationaux de l'Union européenne. Et les Européens se sont endormis, en fait. Les Européens se sont endormis et il y a le premier choc de 2001 qui annonce quand même le 11 septembre le grand retour de l'histoire. Il va totalement déréglé les États-Unis. Mmh. Ça fait 20 ans qu'on vit dans ces États-Unis déréglés par le 11 septembre. Et puis après, il y a la crise financière. Et là, on va voir la crise grecque. Et là, on va voir en fait que les Européens, un, ne se connaissent pas, ne se comprennent pas et qu'il n'y a aucune solidarité entre eux. Parce que finalement, là, c'était un petit peu le petit cousin qui avait trop dépensé. Alors certes, ils ont commis beaucoup d'erreurs, les Grecs. Hein, c'est pas seulement des victimes. Mais on a bien vu qu'aucun Européen n'a vraiment voulu venir sauver les Grecs. Parce que finalement, l'Europe aurait dû fonctionner comme une famille. C'est-à-dire, dans une famille, lorsque quelqu'un va pas, même s'il a fait des bêtises, eh ben on va le soutenir. Mais là, personne n'a soutenu les Grecs, au fond. Parce que justement, il n'y avait pas cette solidarité culturelle. Il n'y a pas eu ce plus qui aurait permis de dépasser cette idée d'empire, des normes, du marché, ou les belles années, fin des années 90, début des années 2000, avec l'arrivée des low cost, de cet hypertourisme, de l'euro, mais qui finalement, tout ça a été incroyablement superficiel. Au fond, aucun lien sérieux n'avait été créé entre les peuples, seulement avec quelques élites.
Thomas Tserrier, est-ce qu'il n'y a pas, parce qu'il y a une peur de l'Europe à réintégrer l'histoire apparemment, mais est-ce que cette peur ne vient pas du passé? Dans votre livre, vous commencez le Europa par une série d'articles où c'est vraiment le suicide européen qui est exploré. On vous le rappelait dès le début du livre, tous les livres fondateurs de l'Europe sont des livres de guerre. Hein. De l'Iliade à la chanson de Roland, jusqu'à Vie et destin de Vassili Grossman et Être sans destin. On passe de la littérature de la guerre à la littérature concentrationnaire, mais la littérature européenne est une littérature essentiellement noire et une littérature de guerre. Et vous citez Isaiah Berlin, la première moitié du XXe siècle a été un suicide, et la deuxième moitié, on pourrait dire, une sorte de glaciation sous la guerre froide. Oui. Est-ce qu'il est possible de revenir à l'histoire après ça?
Je pense qu'il y a, dans les années 90, qu'on a beaucoup évoqué jusqu'à présent, dans notre conversation, les deux phénomènes contradictoires qui sans doute s'emboîtent de manière dialectique. Il y a cette conscience et cette mémoire de la catastrophe, donc de ce que Isaiah Berlin rappelait des héritages de la première moitié du XXe siècle. Et puis il y a ce moment Fukuyama justement dont nous avons parlé, avec cet espoir explicite ou implicite justement d'une sortie de l'histoire. Et effectivement, ce qui complique les choses, c'est qu'il y a autour de de ce que nous avons déjà évoqué là dans notre conversation, autour de cet aspect un petit peu superficiel, de cette rencontre un peu superficielle des deux Europes de l'Est et de l'Ouest après 1989. Qui semble se rencontrer, il y a probablement cette unité de façade ou de surface qui est due à un discours commun adopté par les uns et par les autres. D'une certaine manière, il y a une colonisation probablement, et après 2004, depuis 10 ans, depuis la crise, en Allemagne de l'Est, par exemple, en ex-Allemagne de l'Est, hein, les nouveaux Länder, 20 ans après, mais aussi dans la Hongrie de Orban, on entend dans la Pologne de Kaczynski, on entend le reproche d'une colonisation par l'Ouest revenir en force 20 ans après. À l'époque, on en entend très peu parler parce qu'il y a une forme d'autocolonisation, je pense, dans les sociétés d'Europe centrale des années 90. Donc il y a une espèce de standardisation qui est à la fois imposée mais aussi voulue. Et qui est effectivement l'une des variantes possibles, la variante de la sortie de l'histoire par rapport au contraire au choix d'affronter l'histoire et de construire effectivement un récit commun ou en tout cas de se mettre au clair sur les failles d'un récit commun. mais avec les enjeux culturels et les enjeux de mémoire qui vont avec. Mmh. On a aussi eu ça dans les années 90, de grands débats autour de la mémoire du nazisme et du goulag, mais effectivement, ce sont des débats qui ont quand même surtout concerné les milieux intellectuels et les milieux culturels, sans que ce soit véritablement pris en charge, ni par par les milieux politiques de façon beaucoup plus, plus ample, ni par les sociétés civiles dans leur ensemble.
Alors, dans la décennie suivante, Benjamin Haddad, c'est ce que vous explorez plus particulièrement dans votre livre, c'est l'ironie des rapports entre les États-Unis et l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a un divorce progressif qui va se faire. Les États-Unis vont se retrouver les seuls acteurs d'un Occident fantôme, en fait. La guerre froide a été le moment où on pensait qu'il existait un camp occidental. Et la fin de la guerre froide montre que les États-Unis sont finalement les seuls acteurs de la géopolitique occidentale et que l'Europe n'arrive pas à agir, même pas seulement à se faire entendre.
Oui, les États-Unis sont les seuls acteurs, mais c'est les acteurs sans véritable boussole, en fait. Oui. Parce que pendant la guerre froide, donc il faut se rappeler, après la Seconde Guerre mondiale, l'obsession des dirigeants américains, surtout après le coup de Prague, qui est un réveil, c'est de ne pas faire la même erreur qu'à la fin de la Première Guerre mondiale et de se retirer d'Europe. Et donc, une frénésie institutionnelle, mais vraiment remarquable, hein, entre 46 et 48, la création de l'OTAN, le plan Marshall, l'ONU, pour ancrer les États-Unis et trouver ce nouveau sens de mission. Qui est d'être les garants de la démocratie libérale, de la paix et mettre en place cette politique d'endiguement de l'Union soviétique. Après 89, on a effectivement cet optimisme, l'élargissement des alliances, des accords de libre-échange, énormément d'interventions militaires, humanitaires plus ou moins réussies, mais sans véritable sens de direction. Et ces ambitions se fracassent sur la guerre en Irak et la crise financière qui remet vraiment en question pour les dirigeants américains, droite comme gauche, avec des conséquences très différentes, le sens d'exceptionnalisme que représentent les États-Unis, c'est-à-dire à la fois l'exception de l'expérience politique américaine, hein, le Shining City Upon a Hill, l'exemplarité des institutions américaines à travers le monde, mais aussi un sens de mission internationale, c'est-à-dire l'idée que les intérêts des États-Unis et les intérêts du monde se confondent presque naturellement. C'est le thème de l'hégémonie bienveillante qu'on entendait au début des années 2000. La version la plus hypertrophiée, hein, de cette doctrine, c'est le second discours d'investiture de George Bush, quand il dit les États-Unis ne peuvent pas être véritablement libres que quand le reste du monde ne l'est pas. Donc, et ça, on voit aujourd'hui ces ambitions complètement mise à mal par à la fois Obama et Donald Trump. Le but de mon livre, c'est de contextualiser Donald Trump et de prendre un peu de recul sur les tweets, sur les scandales, les déclarations à l'emporte-pièce et de voir qu'en fait, on avait déjà une forme de repli, de rejet de cette mission sous Barack Obama. Et notamment, l'exemple le plus frappant en est évidemment le comportement vis-à-vis de la crise syrienne, qui a eu, rappelons-le, qui est au fond une crise existentielle pour l'Union européenne. L'émergence de Daesh et les attentats terroristes, la crise des réfugiés, Salvini ne serait pas au pouvoir sans la crise syrienne. Or, informé par les limites de nos capacités, notre seule réponse a été de se tourner vers les États-Unis qui ont décidé de traiter cette crise par l'évitement.
De ne rien faire,
pas de conflit de plus au Moyen-Orient. Et là-dessus, on voit une grande continuité qui, à mon avis d'ailleurs, ira au-delà de Donald Trump.
Déjà. Oui, et c'est-à-dire qu'on a, au début, dans les années 2000, on a une espèce de leader sans troupes qui les États-Unis qui se met à agir de manière chaotique. On a une Union européenne qui invente des billets d'euros avec des monuments inventés.
C'est effrayant. Mais c'est effrayant. Mais ça raconte tout de cette construction européenne des 30 dernières années.
Ouais.
On n'a pas voulu définir les origines de l'Europe. Enfin, c'est-à-dire, en fait, on se retrouve avec un objet qui n'a pas d'objectif précis et qui n'a pas de passé.
Ouais.
C'est terrible. Qui n'a pas de passé assumé. Un martien se baladerait une semaine en Europe, comprendrait à peu près quelle est la matrice civilisationnelle, historique de l'Europe. Il faut nommer les choses. C'est pas pour ça qu'on exclut d'autres. Mais oui, l'Europe a une certaine histoire. Il faut assumer cette histoire. L'Europe a fait des choses extraordinaires. L'Europe a commis des atrocités terribles. Et il n'y a plus il n'y a plus d'objectif. On ne sait pas vers où on va. Il n'y a pas d'horizon. Et en fait, vous avez dit les États-Unis d'un côté et l'Europe n'a rien fait. L'Occident s'est retrouvé finalement avec un leader sans troupes.
Sans troupes.
Mais l'Europe n'existe pas, Marc.
Voilà, c'est ça.
Mais l'Europe n'existe pas. On parle d'un vaisseau fantôme. L'Europe n'est pas un véritable acteur des relations internationales. Donc vous avez encore la France, la Grande-Bretagne, d'autres États qui participent de temps à autre. Mais il n'y a pas d'acteur international européen. Et parce que justement, dans ces années 90, où on pense que la fin de l'histoire est arrivée, au lieu de mettre sur pied justement un pendant politique, militaire, diplomatique, comme on veut, à cette construction économique et financière qui est en cours dans les années 90, on ne fait rien. Donc il n'y a pas de pendant politique, il n'y a pas de pendant culturel. Donc on se retrouve avec cette espèce de poupée qui n'a qu'un bras, une espèce de cul-de-jatte, et on n'a pas de tête véritable. On a des têtes qui changent tout le temps. Il y en a 3, 4. Moi, je les ai comptées. Il y a 6 présidents différents de l'Union européenne. Mmh. Entre le président de l'Union européenne, le président du Conseil, le président de la Commission, le président du Parlement européen, le président de la Banque centrale européenne. Il en manque un. Enfin, ça fait au moins 5. Mais c'est impossible aujourd'hui. C'est impossible. Aujourd'hui, on a le retour des hommes forts avec une espèce de verticale du pouvoir. Et nous, on a 6 institutions simplement européennes, plus tous les États nationaux. Et évidemment qu'on ne peut pas être entendu sur la scène internationale, puisque ça n'existe pas. On parle trop d'Europe, je trouve, alors qu'en fait, ce sont les États les responsables.
Alors, paradoxe supplémentaire, oui, c'est que les États-Unis qui se replient et qui se jouent une sorte de jeu néo-isolationniste, les pays européens qui s'entendent le mieux avec les États-Unis aujourd'hui, vous le rappelez Benjamin Haddad, ce sont les plus nationalistes. Ce sont ceux qui refusent le plus la coopération internationale, notamment la Hongrie, notamment la Pologne, par sentiment anti-russe, se sont considérablement rapprochés des États-Unis.
Oui, ils ont essayé de jouer la carte de Donald Trump, à la fois par affinité idéologique, le populisme, le nationalisme, le retour des identités fortes, mais aussi par insécurité géopolitique. Ils sont à côté de la Russie, ils ont besoin de la protection des États-Unis. Je suis allé à Varsovie pour préparer ce livre, j'ai entendu une stratège polonaise, pourtant très pro-européenne, qui m'a dit « on connaît notre histoire, c'est pas les Français et les Allemands qui vont nous protéger si les Russes arrivent ». Bon, donc, y a vraiment, encore une fois, cet atlantisme est très marqué. Et d'ailleurs, c'est ce qui a provoqué aussi une forme de mépris extrêmement destructeur de la part des Français. Notamment, rappelez-vous la petite phrase de Jacques Chirac qu'on entend toujours à l'égard des pays d'Europe de l'Est qui feraient mieux de se taire pendant la crise irakienne. Tout ça a laissé des traces et c'est ce qui a provoqué aussi ce malentendu. Mais c'est vrai que l'Europe n'est pas un acteur des relations internationales. Et encore pire, elle risque d'en devenir un théâtre de rivalité des grandes puissances. On parlait tout à l'heure du 11 septembre 2001 qui a, pour beaucoup d'entre nous, marquer une forme de retour de l'histoire, ou en tout cas une histoire qui ne nous a jamais vraiment quitté, mais qu'on reprenait en plein visage. En 2001, il se passe un autre événement qui est un tournant profond des relations internationales, c'est l'entrée de la Chine dans l'OMC. Et à l'époque, là aussi, on était dans l'optimisme de ce qu'on appelait la convergence. C'est-à-dire la Chine s'était ouverte avec des réformes économiques sous Deng Xiaoping. Finalement, elle était elle-même sur la défensive. On avait été très marqué par les événements de Tiananmen. On imaginait une Chine qui, sous l'effet de sa libération économique, allait forcément s'ouvrir à une forme de libéralisation politique. On voit aujourd'hui l'effet totalement inverse d'une Chine qui assume complètement son modèle et son identité, qui investit en Europe, qui divise les Européens. L'Italie, le mois dernier, qui est le premier pays européen à rejoindre les routes de la soie, qui rachète le port du Pirée et qui utilise ses investissements, ne soyons pas naïfs, à fin d'influence politique aussi, qui divise les Européens qui, sur des sujets comme les droits de l'homme. Après, on voit les Hongrois, les Grecs ou les Italiens voter contre les mesures de l'Union européenne. Et l'Union européenne elle-même, non seulement n'est pas capable de penser ce rapport de force et de se penser comme une puissance, mais reste naïvement la zone économique la plus ouverte au monde aux investisseurs étrangers.
Mais ce qui me gêne, c'est quand on dit finalement l'Union européenne. Parce que l'Union européenne a les compétences que les États lui cèdent. Donc, si l'Union européenne est faible, c'est parce que les États qui la composent ont décidé d'en faire une créature incroyablement faible. Lorsqu'on dit l'Europe est responsable de je ne sais plus combien de dizaines de milliers de migrants morts en Méditerranée, mais c'est pas l'Europe, ce sont les États européens qui ne veulent pas de ces migrants. Et tout est comme ça, c'est-à-dire dès qu'il y a un problème, même pour les gens qui aiment l'Europe, on va dire, l'Europe. Ce sont les États qui sont les responsables de cette situation catastrophique aujourd'hui. Je pense qu'il y a...
Et donc les dirigeants.
Ce sont les dirigeants.
Les dirigeants qui mettent l'Europe, qui mettent...
Après la génération...
responsable de leur absence de politique.
Après la génération, pas seulement des pères fondateurs, mais tous ces leaders politiques qui avaient connu dans leur chair les horreurs au moins de la Seconde Guerre mondiale. Une fois que cette génération quitte le pouvoir, à partir de la fin des années 90, en France c'est un peu plus tard, mais ailleurs, ceux qui arrivent, les baby-boomers, eux n'ont pas connu. Et il va y avoir, en fait, il y a ce trou d'une quinzaine d'années qui correspond au moment où des dirigeants nés après la Seconde Guerre mondiale, notamment dans les années 50, finalement ne portent pas le projet. Et celle qui incarne finalement ces 15 ans perdus au niveau européen, c'est quand même Angela Merkel, d'une certaine manière. Parce que elle a géré, c'est une gestionnaire, elle gère l'Allemagne comme on gère une grande entreprise, et elle a géré l'Union européenne comme on gère une grande entreprise. Mais aussi parce que la France s'est terriblement affaiblie. Mmh. Avant, l'Europe fonctionnait parce qu'il y avait un duopole. Et donc ils étaient obligés de s'entendre, et chacun respectait l'autre, parce qu'ils étaient à peu près du même poids. À partir du moment où la France a commencé à décliner au début du XXIe siècle, l'Allemagne se retrouve toute seule. Et donc l'Allemagne gère l'Europe comme elle gère ses propres affaires. Mais Merkel n'a pas cette fibre européenne. Elle n'a jamais proposé un seul grand projet à l'Europe depuis qu'elle est au pouvoir. Et donc, depuis 20 ans, on a ce vide. Deuxièmement, je pense qu'il y a un point assez important, c'est que cette Union européenne, la façon dont elle fonctionne, a été conçue dans les années 80, au moment où la mondialisation commence. Et donc, on a finalement une vision incroyablement naïve du néolibéralisme. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Je veux dire, les révolutions des communications ont à peine commencé. On ne sait pas ce que le libre-échange va provoquer comme conséquence, mais au niveau de la planète entière. Sauf que la façon dont l'Union européenne fonctionne, notamment par grands traités, tout ça est inscrit dans le marbre. C'est-à-dire, vous avez, dans la plupart des États, vous pouvez changer de politique économique, vous avez d'autres priorités. Là, on a un droit de la concurrence qui date des années 70 et 80. Au lieu de pouvoir créer des champions européens qui vont lutter face à des champions américains, face à des champions chinois, on continue d'imaginer l'Europe comme un marché totalement fermé où il faut respecter absolument certains critères de concurrence. Et c'est totalement aberrant. Cette construction-là, à 35 ans aujourd'hui.
Je vais devoir vous arrêter parce qu'on arrive au terme de l'émission, malheureusement, comme on dit dans les émissions de radio. D'un mot, tous les trois, sans rien dire sur ces élections sur lesquelles on ne peut rien dire, vous êtes optimiste pour l'avenir, très 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 rapidement?
Moi, je crois qu'on n'a plus le choix le vrai enjeu maintenant, ça va être de passer d'un projet de paix qui a marché, qui a fonctionné, quand même, disons-le, à un projet de puissance. Sinon, on sortira de l'histoire.
Thomas Serrier.
Oui, j'étais à Berlin il n'y a pas très longtemps et je reprendrai volontiers les mots de l'ancien président polonais Komorowski, dont j'ai entendu une conférence qui disait finalement ne soyons pas trop pessimistes, même si c'est la tonalité du moment évidemment. Les Européens partagent un ensemble de valeurs, ils sont d'accord pour défendre la démocratie et ce moment difficile qu'il admettait tout à fait et que j'admets aussi tout à fait de crise, il le voyait comme une crise de maturité, une crise de croissance. Je pense effectivement, et d'une certaine manière notre discussion le montre, qu'il y a peut-être trop lentement, mais en tout cas tout de même une prise de conscience de la nécessité de se reprojeter dans un avenir et de définir un petit peu beaucoup plus clairement ce que nous voulons pour l'Europe, et c'est ainsi effectivement qu'elle pourra se remettre en marche.
Olivier Guez.
Moi, je suis très frappé que la jeunesse se mobilise à ce point-là pour le climat. J'aimerais, et je suis étonné qu'elle ne le fasse pas autant pour l'Europe, en fait. Je comprends pas, en fait, pourquoi ces jeunes gens ne s'engagent pas là-dedans, et puis sinon, ce sera l'Uruguay.
Belle, mais étrange patrie, que celle qui m'a été donnée. Elle jette les filets pour prendre des poissons, et c'est des oiseaux qu'elle attrape. Elle construit des bateaux sur terre et des jardins sur l'eau. Belle, mais étrange patrie, que celle qui m'a été donnée. Elle menace de prendre une pierre, et elle renonce. Elle fait mine de la creuser et des miracles naissent. Belle, mais étrange patrie, que celle qui m'a été donnée. Avec une petite barque, elle atteint des océans. Elle cherche la révolte et s'offre des tyrans. Belle, mais étrange patrie, παράξενη πατρίδα, όσαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Ρίχνει να πιάσει ψάρια, πιάνει φτερότα στην στιγή καράβι, κι πως τα νερά, κι πως τα νερά, κι πως τα νερά.
C'était Signe des temps, une mission de Marc Wetzmann assistée de Nathalie Dempereur, avec à la technique Alexandre Dang et à la réalisation Véronique Villa. Dans un instant, une histoire particulière.
Κάνει να δυσκολήσει, βγάνει θάματα, βγάνει θάματα, βγάνει θάματα. Σε ένα βαρκάκι πιάνει ωκεανούς, ξεσηκωμούς γυρεύει, θέλει τυραννούς. Πέντε μεγάλους βγάλει, πάνω τους βαρύ, να λείψουν απ' τη μέση τους δοξολόγοι, τους δοξολόγοι, τους δοξολόγοι. Παράξενη πατρίδα, όσαν αυτή που μου λάχε δεν είδε. Ρίχνει να πιάσει ψάρια, πιάνει φτερότα στην στιγή καράβι, κι πως τα νερά, κι πως τα νερά, κι πως τα νερά.